France Culture.
Les nuits de France Culture.
Quatre-vingts ans après le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, l'écrivain russe Léonide Andreïev publiait en 1908 « Les Sept Pendus », un court roman racontant les derniers jours de sept condamnés à mort. En 1967, c'était ce livre que Vladimir Jankélévitch avait choisi de lire et de commenter dans une émission de Jean-Vincent Bréchignac qui avait pour titre « Le livre de chevet ». Un livre qui avait pour lui une valeur sentimentale et présentait également un intérêt philosophique, comme il le soulignait, dans la deuxième des neuf émissions de la série des lectures qu'il donnait des sept pendus. C'est ce deuxième volet que nous allons entendre maintenant. Le livre de chevet, Vladimir Jankélévitch, présente les sept pendus de Léonide Andreïev, deuxième des neuf épisodes diffusé le 30 mai 1967 sur France Culture.
L'ORTF vous présente le livre de chevet de Vladimir Jankélévitch, qui vous lira des extraits des sept pendus de Léonide Andreïev.
Vous avez finalement adopté comme livre de chevet, Vladimir Jankélévitch, le récit des sept pendus dont vous poursuivez la lecture ce soir. Indépendamment des raisons sentimentales que vous avez évoquées, est-ce le thème philosophique de cette œuvre, vraiment très peu connue, de Léonide Andreïev, qui vous a séduit ?
Un thème philosophique, si vous voulez, assurément, est une des raisons pour lesquelles je m'en suis beaucoup servi et je l'ai beaucoup relu. Et le problème métaphysique, si vous voulez, qui y est traité, c'est en somme celui du condamné à mort. C'est l'amenuisement du temps du condamné pour quelqu'un qui n'a plus que quelques instants à vivre. Et en définitive, le premier qui ait traité ce thème, c'est Victor Hugo, dans cet écrit génial et très célèbre, qui est « Le dernier jour d'un condamné ». D'ailleurs, Dostoïevski, qui a lui-même été un condamné à mort en Sibérie, qui a été celui qui va mourir, qui n'a plus que 8 jours à vivre et plus que 3 jours à vivre, avait lu Victor Hugo. Et les traces de ce récit de Victor Hugo se retrouvent dans l'Idiot et dans certains récits. C'est également le problème de Tolstoï, et d'ailleurs, le récit des sept pendus, il ne faut pas l'oublier, est dédié à Tolstoï, pour qui Andreïev avait une très grande admiration. Par conséquent, ce problème, c'est celui de l'homme qui va mourir. Et il faut dire que Andreïev le traite avec une maîtrise prodigieuse. C'est un livre qui est vraiment saisissant à tous égards. Et il étudie sur les 5 condamnés à mort, les 7 même, cet amenuisement du temps, le sablier qui se vide peu à peu, la clepsydre se vide, comme chez Baudelaire, n'est-ce pas ? Bientôt l'heure va sonner. Et les réactions de l'angoisse. L'angoisse montante, la marée de l'angoisse. C'est donc ce crescendo qui est étudié dans ce récit. J'ai présenté hier, à la suite de Léonide Andreïev, les condamnés à mort, dont je rappelle que 5 sont des condamnés politiques, qui ont tenté de tuer le gouverneur, et 2 autres, qui vont mourir avec les 5 précédents, sont 2 condamnés de droit commun, des bandits. Et Serge Gorovin, Moussia, Werner, 2 inconnus, on ne sait pas leur vrai nom, Vassili Kachirin, celui qui a peur, Tania Kovalchuk, qui est une petite Russienne. Il y a des portraits que je vais vous présenter à la suite d'Andreïev, de ces révolutionnaires. Voici le 3e condamné à mort, le plus énigmatique, le plus curieux de tous, et à qui, dans la bouche de qui, Andreïev met les paroles les plus profondes. Le voisin de Moussia, immobile aussi, dans une pose un peu affectée, les mains croisées entre les genoux, était un inconnu, surnommé Werner. Si l'on peut verrouiller un visage comme une lourde porte, l'inconnu avait verrouillé le sien comme une porte de fer. Tout ceci, c'est tout à fait Andreïev, la porte de fer, la porte du secret, il en parle ailleurs dans ses écrits. Il fixait obstinément le plancher, et il était impossible de savoir s'il était calme ou profondément ému, s'il pensait à quelque chose ou écoutait les dépositions des agents de police. Sa taille était peu élevée, et ses traits étaient fins et nobles. Il donnait l'impression d'une force immense et calme, d'une vaillance froide et insolente. La politesse même, avec laquelle il fournissait des réponses, claires et brèves, semblait dangereuse sur ses lèvres. Si la capote de prisonnier paraissait être un accoutrement ridicule sur le dos des autres personnes, par contre, on ne la voyait même pas sur lui, tant l'habit était étranger à l'homme. Bien que Werner n'eût été armé que d'un mauvais revolver, alors que les autres portaient des bombes et des machines infernales, les juges le considéraient comme le chef et le traitaient avec un certain respect. Le quatrième condamné, Kachirine, dont je vais lire le portrait, est celui qui a peur, qui est dévoré par l'angoisse et la peur jusqu'au bout. La terreur insupportable de la mort et le désir désespéré de réprimer cette peur, de la dissimuler au juge, partageaient l'âme de son voisin, Vassili Kachirine. Dès le matin, depuis que les prisonniers avaient été conduits au tribunal, il étouffait sous les battements précipités de son cœur. Des gouttes de sueur apparaissaient sans cesse sur son front. Ses mains étaient également moites et froides. Collées au corps, sa chemise humide et glacée gênait ses mouvements. Par un effort de volonté surhumain, il obligeait ses doigts à ne pas trembler, sa voix à être ferme et mesurée, son regard tranquille. Il ne voyait rien autour de lui. Le bruit des voix lui parvenait comme au travers d'un brouillard, et c'est dans un brouillard aussi qu'il se raidissait, dans un effort désespéré pour répondre avec fermeté, à haute voix. Et voici maintenant, j'abrège un peu, la cinquième et dernière condamnée parmi les condamnés politiques, qui est Tania Kovalchuk, dont le nom, pour tous ceux qui savent le russe, et le nom d'une Ukrainienne, une petite Russienne, et qui est un des personnages les plus attachants de ces cinq condamnés à mort, Tania Kovalchuk. Consumée par l'inquiétude, Tania Kovalchuk, la cinquième terroriste, couvait ses camarades d'un regard maternel. Elle était encore très jeune. Ses joues semblaient aussi colorées que celles de Serge Golovin, et cependant, elle semblait être la mère de tous les accusés, tant son regard et son sourire étaient pleins d'anxiété tendre, d'amour infini. La marche du procès ne l'intéressait pas. Elle écoutait ses camarades, préoccupée seulement de savoir si leur voix tremblait, s'ils avaient peur, s'il fallait leur donner des soins. Mais elle ne pouvait regarder Vassili, celui qui a peur. Son angoisse était trop forte. Elle se contentait de faire craquer ses doigts potelés. Elle admirait avec fierté et respect Moussia et Werner. Son visage alors prenait une expression grave et sérieuse. Sans cesse, elle tâchait d'attirer les regards de Serge Golovin par son sourire. Le cher camarade, il regarde au ciel. Regarde, regarde, pensa-t-elle. Maintenant, Leonid Andreev va nous montrer les entrevues de ces condamnés avec leurs parents. Je rappelle que c'est une étude de leur réaction devant l'angoisse montante. Leur temps de vital s'amenuise peu à peu, se rétrécit comme la peau de chagrin, une sorte de grignotement du temps, en quelque sorte, par le jour fatal, le moment de l'exécution. Tout à fait un problème de Victor Hugo et un problème baudelairien. Voici les entrevues suprêmes, d'abord de Serge Golovin, avec son père et sa mère. Le verdict concernant les cinq terroristes a été prononcé dans sa forme définitive et confirmé le même jour. On n'a pas réuni les condamnés, comme Tania le supposait, dans la même cellule, et on ne leur a pas dit quand aura lieu le supplice. Mais ils ont prévu qu'on les pendra, selon la coutume, cette nuit même, ou la nuit suivante, ou plus tard. Lorsqu'on leur a offert de voir leur famille, le lendemain, ils ont compris que l'exécution était fixée à vendredi, au point du jour. Tania Kovalchuk n'avait pas de proches parents. Elle ne connaissait que quelques parents lointains habitant la petite Russie, lesquels probablement ne savaient rien du procès, ni du verdict. Moussia et Werner, n'ayant pas révélé leur identité, ne tenaient pas à voir les leurs. Seuls Serge Golovin et Vassili Kachirine devaient recevoir leur famille. Tous deux envisageaient avec effroi cette entrevue prochaine, mais ni l'un ni l'autre n'avait la force de s'y dérober. Serge Golovin attendait cette visite, la mort dans l'âme. Il aimait beaucoup son père et sa mère, qu'il avait vus tout récemment. Et il était plein de terreur à la pensée de les revoir une dernière fois. Le supplice, lui-même, dans toute sa monstruosité, se dessinait plus facilement dans son imagination que ces quelques minutes incompréhensibles, hors du temps, hors de la vie. Que faire? Que dire? Les gestes les plus simples, les plus coutumiers, serrer une main, embrasser, dire « bonjour mon père », lui paraissaient affreux et insensés. Toute la matinée, jusqu'à l'heure où il reçut ses parents, Serge Golovin se promena de long en large dans son cachot, en tourmentant sa barbiche, les traits pitoyablement contractés. Parfois, il s'arrêtait brusquement pour respirer, comme un nageur qui est resté trop longtemps sous l'eau. Mais comme il était bien portant, que sa jeune vie était solidement plantée en lui, même en ces minutes de souffrance atroce, le sang circulait sous sa peau, colorait ses joues et ses yeux bleus conservaient leur éclat habituel. Tout se passa beaucoup mieux que Serge ne le supposait. ce fut son père, le colonel en retraite Nicolas Sergeïevitch Golovin, qui pénétra le premier dans la pièce où les visiteurs étaient reçus. Toute sa personne était blanche, de la même blancheur, visage, cheveux, barbe, mains. Son vieux vêtement, bien brossé, sentait la benzine. Ses épaulettes paraissaient neuves. Il entra d'un pas ferme, mesuré, en se redressant, et dit à haute voix, sa main sèche tendue, « Bonjour, Serge !» Derrière lui, la mère venait à petits pas, souriant d'un sourire étrange. À son tour, elle serra la main du jeune homme et répéta à haute voix, « Bonjour, mon petit Serge !» Mais elle ne se jeta pas sur son fils, elle ne se mit pas à pleurer ou à crier, comme Serge s'y attendait. Elle l'embrassa et s'assit sans parler. Puis d'une main tremblante, elle arrangea les plis de sa robe noire. Serge ignorait que le colonel avait passé toute la nuit précédente à combiner cette entrevue. « Nous devons alléger les derniers moments de notre fils, et non les lui rendre plus pénibles », avait décidé le colonel, et il avait soigneusement pesé chaque phrase, chaque geste de la visite du lendemain. De temps en temps, il s'embrouillait, il oubliait ce qu'il était parvenu à préparer, et il pleurait amèrement, affaissé dans le coin de son canapé. Le lendemain matin, il avait expliqué à sa femme ce qu'elle devait faire. « Surtout, embrasse-le, et tais-toi », lui répétait-il. « Tu pourras parler après, un peu après, mais quand tu l'embrasseras, tais-toi. Ne parle pas aussitôt après l'avoir embrassé, comprends-tu ? Sinon, tu diras ce qu'il ne faut pas dire. » « Je comprends, Nicolas Sergeïevitch, » répondit la mère en pleurant. « Et ne pleure pas, que Dieu t'en préserve, ne pleure pas, tu le tueras si tu pleures. » « Et pourquoi pleures-tu toi-même ? Comment ne pleurerait-on pas avec vous autres ? Il ne faut pas que tu pleures, entends-tu ? » ?»« Bien, Nicolas Sergeïevitch. » Ils montèrent en fiacre et partirent, silencieux, voûtés, vieillis. On était au carnaval, et les rues étaient pleines d'une foule bruyante. Mais les deux vieillards, plongés dans leurs pensées, n'entendirent pas la ville s'agiter gaiement autour d'eux. On s'assit. Le colonel prit une attitude convenue, la main droite dans la fente de sa redingote. Serge resta assis un instant. Son regard rencontra le visage ridé de sa mère. Il se leva tout à coup. « Assieds-toi, mon petit Serge, » supplia la mère. « Assieds-toi, Serge, » répéta le père. Ils gardèrent le silence. La mère avait un sourire étrange. « Que de démarches nous avons faites pour toi, Serge ? Le père, c'était inutile, petite mère. » Le colonel dit avec fermeté. « Nous devions le faire, pour que tu ne penses pas que tes parents t'avaient abandonné. » Ils se turent de nouveau. Ils avaient peur de prononcer une parole. Comme si chaque mot de la langue avait perdu son sens propre et ne signifiait plus qu'une seule chose, la mort. Serge regardait la petite redingote proprette qui exhalait l'odeur de benzine et il pensait « Il n'a plus d'ordonnance, donc il a nettoyé son habit lui-même. » Comment n'ai-je jamais remarqué qu'il nettoyait son habit ? Ce devait être le matin, probablement. Vous remarquerez dans ce texte la lucidité de regard avec laquelle le romancier saisit les détails. Le condamné à mort voit les détails se développer devant lui, comme chez Dostoïevski, comme chez Victor Hugo. Il remarque des choses qu'on ne remarquerait pas sans cela.
C'était « Le livre de chevet » de Vladimir Jankélévitch. Une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch vous a lu des extraits du livre de Léonid Andreïev, « Les sept pendus », et vous a interprété au piano « La mort rôde » de Gabriel Dupont et un extrait de Goyescas de Granados. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
Vous venez d'entendre le deuxième des 9 épisodes du livre de chevet de Vladimir Jankélévitch. Première diffusion le 30 mai 1967 sur France Culture. À suivre.